Il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité Julien est médecin urgentiste à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Paris.
Bonjour Gérald de Kerzec.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Alors que cet après-midi devrait débuter la campagne de vaccination des 5-11 ans, vaccination facultative, je précise. Après le comité français d'éthique et la haute autorité de santé, il ne manque plus que le feu vert du conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale. Il est attendu ce feu vert dans la matinée. Docteur, question simple, faut-il vacciner ces enfants contre le Covid s'ils sont en parfaite santé ainsi que leur entourage ?
Vous l'avez dit, c'est une étape supplémentaire. Actuellement, la vaccination, elle était réservée à des enfants qui avaient des comorbidités. Et il y avait une logique, c'est-à-dire quand vous êtes fragile, vous risquez de faire une forme grave, et donc c'était intéressant de vous protéger, quel que soit votre âge, avec la vaccination qui protège non pas de la transmission, mais des formes graves. Là, c'est une étape supplémentaire avec des enfants en parfaite santé qui ont quasiment zéro risque, pour ne pas dire zéro risque de forme grave et de décès. Donc le bénéfice individuel, il est beaucoup plus discutable. Et de l'autre côté, il y a le risque, alors les risques à court terme des vaccins, on commence maintenant à avoir ces risques maîtrisés. Ils sont pas nuls, ces risques-là. On sait les risques cardiaques, de myocardite, de péricardite. Mais surtout pour les enfants, moi je pense qu'il faut jouer sur l'immunité naturelle. Il faut laisser ce virus circuler de façon à ce que les enfants puissent se contaminer. Ils ne font pas de forme grave. Et à ce moment-là, ils développent une immunité naturelle qui est stérilisante et bénéfique pour tout le monde. Parce qu'ils vont faire des anticorps et des anticorps qui vont empêcher de transmettre le virus.
Vous nous dites risque quasi nul de forme grave pour les enfants. Il y a quand même eu 145 enfants de moins de 10 ans qui ont été hospitalisés rien qu'hier, dont 27 en réanimation. C'est du jamais vu depuis le début de la pandémie. Alors est-ce que le variant Omicron change la donne ?
Alors, il faut être toujours prudent parce que le variant Omicron, il faut regarder un peu ce qui se passe. On n'a pas de recul. Le seul recul qu'on ait, c'est l'Afrique du Sud. Il s'y passe pas grand chose. Et c'est l'Angleterre où on voit que il y a beaucoup de contamination, mais finalement peu d'hospitalisation et pas plus de décès. Et le profil des patients reste le même. Qu'il y ait des enfants qui soient hospitalisés ou qu'il y ait, malheureusement, et c'est toujours un drame, quelques enfants qui vont en réanimation ou qui décèdent avec des comorbidités. Ça, malheureusement, j'allais dire, c'est le lot chaque année avec même la grippe. Un virus comme la grippe, on sait qu'il y a des jeunes patients qui vont malheureusement faire des formes graves. Alors, quand ça sort dans les médias, c'est toujours insupportable, c'est toujours une puissance émotionnelle terrible. On dit, oulala, j'ai des enfants. Mais regardez de l'autre côté, si on fait une vaccination massive des enfants, plus on va augmenter le nombre, plus on risque d'avoir un certain nombre, par exemple, d'effets secondaires. Et puis, le principe de précaution dont on parle en écologie, moi, j'aimerais bien qu'on le mette aussi sur la table en termes de santé. Quid, dans 5 ou 10 ans, personne n'en connaît les conséquences.
D'accord, mais je précise que les données qui nous viennent des États-Unis, on vaccine les 5-11 ans depuis début novembre, sont très rassurantes. Il n'y a eu que 8 cas de myocardite légère sur 7 millions d'injections.
Bien sûr, mais le profil des enfants n'est pas le même. C'est-à-dire que la balance bénéfice-risque n'est probablement pas la même aux États-Unis, avec des enfants qui souffrent notamment d'obésité et qui sont à forme grave avec un risque supplémentaire. Donc attention à ces comparaisons internationales.
Donc pour vous, les enfants n'ont pas à payer, entre guillemets, pour les quelques 5 millions d'adultes qui refusent toujours de se faire vacciner en France ?
Ah oui, enfin je pense que personne n'a à payer pour des gens, enfin encore une fois chacun est libre. Je pense qu'il faut vacciner quand on a un risque de forme grave, il faut aller chercher ces Français qui ne se sont pas fait vacciner. Je rappelle que plus de 95% des gens en réanimation ont plus de 65 ans, que les patients obèses sont des gens très à risque. C'est ces patients-là qu'il faut aller chercher, vacciner et convaincre, et les enfants effectivement ne doivent pas être les boucs émissaires, j'allais dire une nouvelle fois. Rappelez-vous, depuis le début de cette crise, on a l'impression que ce sont eux qui sont le moteur de l'épidémie, que c'est à cause d'eux, que c'est eux qui contaminent les grands-parents. Donc encore une fois, on ne doit pas leur faire payer les conséquences de cette pandémie.
Je rappelle, parce que c'est important, que la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans n'est pas obligatoire, comme pour les adultes, même si dans les faits, cette liberté est fortement menacée avec la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Le gouvernement veut d'ailleurs accélérer à ce sujet face à la progression du variant Omicron. Projet de loi présenté lundi prochain. C'est une bonne stratégie selon vous, docteur ?
C'est une stratégie du tout vaccinal. On voit bien que le gouvernement mise tout sur le vaccin. Moi, je pense que c'est une arme importante pour les gens à risque. Ce n'est pas la seule arme. Et on l'a vu parce que les contaminations continuent. Attention, les contaminations et les vagues, on parle de 5e, 6e vague, je ne sais même plus à quel numéro on est. C'est une vague de cas positifs. Ce n'est pas une vague de gens malades. Les hospitalisations actuellement sont dans des limites acceptables. On voit bien aussi en Angleterre, et ça va être un bon modèle, qu'il y a une décorrélation entre les cas positifs et les hospitalisations qui ne bougent pas. la stratégie vaccinale, elle n'empêche pas les contaminations. Donc elle n'empêche pas les gestes barrières et il faut à tout prix garder ces gestes barrières, s'auto-tester quand on va par exemple en famille. Ça, ce sont des réflexes de base. Mais tout miser sur le vaccin, à mon sens, c'est plus une stratégie politique et une décision politique de dire j'ai une arme, je l'utilise, comme ça j'ai protégé tout le monde, qu'une réelle efficacité sur la vague. On voit très bien que la vague d'Omicron, elle va progresser, elle va monter, probablement plus de 100 000 cas et elle va redescendre.
Est-ce qu'elle va nécessiter par exemple le retour du couvre-feu selon vous ?
Je pense que le couvre-feu ou le confinement sont des mesures un peu archaïques et qui sont des mesures qui n'ont pas forcément une efficacité. Ça a été des mesures d'urgence en mars 2020. En tout cas, la situation actuelle sanitaire ne le justifie pas. Quand vous avez 3000 patients en soins critiques, je rappelle qu'on a 19 600 lits de soins critiques, ce ne sont pas que des malades de réanimation. Puis moi, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire qu'on est en train de dire on a un problème avec l'hôpital depuis 20 mois. À ce moment-là, si c'est vraiment l'hôpital le maillon faible, et c'est le maillon faible, mais pas pour des raisons de Covid, pour des raisons chaque année l'hôpital a un manque de lits, manque de bras, etc. Eh bien, il faut renforcer cet hôpital parce que depuis 20 mois on entend, on n'a pas assez de lits, etc. Qu'est-ce qui a été fait sur le renforcement de l'hôpital ? Pas grand-chose.
Gérald Kierzek, vendredi dernier Jean Castex a prononcé cette phrase: il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. Ce sont des mots forts, est-ce qu'ils ont une réalité médicale ?
Non, et puis du côté des soignants, il n'y a pas de discrimination ou pointer du doigt telle ou telle catégorie de la population. Je pense qu'il faut être dans la pédagogie. En plus, la petite musique qui est de dire c'est de la faute soit des enfants, soit des non-vaccinés, alors qu'il y a des raisons structurelles à ce que l'hôpital craque. On voit bien qu'actuellement, les malades qui sont hospitalisés, c'est pas forcément d'abord des malades Covid. Le problème de l'hôpital, il est au-delà du problème Covid. Donc je ne vois pas en quoi pointer du doigt des non-vaccinés va changer ce problème structurel de l'hôpital. Et puis attention aussi au message contre-productif en termes de prévention. On a l'impression, et ça a été l'erreur ces derniers mois, de dire vous êtes vacciné, vous ne serez pas contaminé, vous pouvez relâcher les gestes barrières. Et c'est très ancré dans la tête des Français. En disant si je me vaccine, je peux relâcher mes pratiques. Donc j'allais dire c'est peut-être même l'inverse, c'est peut-être même les vaccinés qui font peut-être courir des risques.
Le doublement des heures supplémentaires à l'hôpital, vous en pensez quoi, docteur ?
Moi, j'en pense que ça ne changera pas grand-chose, de même que la mesure qui avait été proposée là, par l'assistance publique hôpitaux de Paris de racheter 2000 euros la semaine de congé. On voit bien que les personnels sont épuisés. Si l'hôpital était vraiment dans une situation catastrophique avec un afflux de patients, on n'achète pas les soignants, ils reviennent d'eux-mêmes. Donc le problème, c'est qu'on est dans une situation d'épuisement et ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit.
Donc les plans blancs qui sont déclenchés partout en France, c'est excessif selon vous ?
Les plans blancs, ce ne sont pas des plans blancs liés à une situation catastrophique ou à un afflux de malades. Ce sont des plans blancs utilisés par les équipes administratives, par les directions des ressources humaines, pour pouvoir mobiliser, annuler des congés, prendre des infirmières de tel ou tel service et les remettre dans un service où on en a besoin. Donc ce sont des plans blancs qui ont été détournés de leur utilisation. Un plan blanc, il faut le rappeler, c'est pour une catastrophe, un attentat. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Quand vous voyez le CHU de Bordeaux, moi j'attends d'avoir les chiffres de Covid plus et de Covid moins, chiffres qu'on n'a pas, mais on voit bien que ce n'est pas un débordement des malades Covid. Le Covid, c'est le prétexte finalement à une incurie managériale, mais cette incurie, elle est là depuis des années.
Merci Gérald Kierzek d'avoir répondu à mes questions ce matin, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu de Paris. Je donne le titre de votre dernier livre à potasser avant le réveillon, Coronavirus, comment se protéger. C'est aux éditions Archipoche. Très bonne journée et passez de belles fêtes.
Merci à vous.